Radio Prague, les informations.
Mairie de Prague, les deux partis de droite, ODS et Top 09 sont d'accord pour former une nouvelle coalition. La Commission européenne ferme le dossier sur l'achat des avions CASA. Le Dalai Lama sera en visite à Prague en décembre. Le Parti civique et démocrate, ODS et Top 09, les deux formations de droite du pays et de la coalition gouvernementale, ont trouvé un accord jeudi matin pour former une nouvelle coalition à la mairie de Prague. Selon l'accord signé, l'ODS devrait conserver le poste de maire occupé depuis l'année dernière par Bohuslav Svoboda et disposer de deux postes d'adjoint et de deux conseillers municipaux. Top 09, qui avait remporté les élections à Prague en 2010, devrait être lui représenté par deux adjoints au maire et quatre conseillers, un nombre qui lui garantit la majorité. Cette nouvelle coalition de droite doit remplacer la coalition formée par l'ODS et le Parti social-démocrate. La Commission européenne a fait savoir qu'elle refermait le dossier judiciaire sur l'achat des avions CASA. En 2010, elle avait décidé de traduire la République tchèque devant la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir respecté les règles européennes lors de l'achat d'avions de transport militaire espagnol. Le ministère tchèque de la Défense avait conclu un contrat d'une valeur de 132 millions d'euros pour l'achat de 4 avions de transport militaire tactique CASA 295M sans organiser d'appel d'offres ni de mise en concurrence. Une violation claire des règles européennes des marchés publics, selon la Commission européenne qui avait mis en demeure les Tchèques de se mettre en conformité. Dans une déclaration ce jeudi, la Commission a fait savoir qu'elle avait toujours des doutes sur les formalités de cet achat, mais que le dossier était clos alors que la République tchèque a donné des assurances sur le fait que les règles de l'UE seront à l'avenir suivies. Le Dalai Lama se rendra à Prague en décembre, sur invitation de son ami l'écrivain et ancien président Václav Havel. Le leader spirituel du Tibet vient fréquemment en République tchèque. Sa dernière visite remonte à il y a 2 ans, lors d'une conférence sur la démocratie en Asie. Le Dalai Lama arrivera à Prague le 10 décembre, journée des droits de l'homme, et restera 3 jours pendant lesquels il participera à des débats à l'université Charles. Parmi les participants, Václav Havel, l'iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, ou encore le français Stéphane Essel. La République tchèque a un des plus forts taux d'obésité d'Europe. C'est le résultat d'une analyse effectuée par Eurostat et publiée ce jeudi. Prenant appui sur des données de 2008 et 2009, le rapport en question montre que la proportion des personnes obèses en République tchèque a atteint 18,3%, plaçant le pays à la 5e position des 27 membres de l'UE. Les femmes tchèques entre 65 et 74 ans se retrouvent en première position européenne avec 35,9% de la population. Le rapport montre aussi que le taux d'obésité est plus élevé dans les couches sociales moins éduquées, mais ne trouve aucune corrélation entre obésité et sexe. Et puis, à noter qu'à partir de vendredi et jusqu'au 25 mars 2012, le cloître Sainte-Agnès à Prague organise une grande exposition consacrée à sa patronne et fondatrice à l'occasion des 800 ans de sa naissance. Quelques 300 œuvres d'art médiéval rappelleront ainsi aux visiteurs la vie et le culte consacré à Sainte-Agnès de Bohême. On finit par un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Catagena, le temps devrait être ensoleillé sur une majeure partie du pays. Les températures varieront entre moins 1 et 3 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobliden, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité, l'affaire tout d'abord dans laquelle figurent 3 touristes tchèques détenus depuis 1 mois en Zambie. La police locale les soupçonnant d'espionnage. Une affaire rocambolesque à laquelle la diplomatie tchèque s'efforce de trouver une issue, mais pour l'heure sans succès, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Il y aura du sport et du football plus précisément ensuite avec la victoire du Viktoria Plzeň en Ligue des Champions, une victoire, la première dans la compétition, qui devrait suffire aux champions de République tchèque pour se qualifier pour la Ligue Europa. Et puis la seconde partie de ce programme sera consacrée à la rubrique du jour et au portrait du scénographe Josef Svoboda. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, 3 touristes tchèques sont donc détenus en Zambie depuis la mi-octobre. Soupçonnés d'espionnage par les autorités locales, après avoir pris notamment des photos de certains bâtiments militaires, les 3 hommes, privés de passeport et libérés sous caution en attendant d'être jugés, clament leur innocence alors qu'ils risquent jusqu'à 25 ans de prison. Mais malgré les efforts de la diplomatie tchèque, la partie zambienne continue de faire la sourde oreille aux demandes de Prague. Âgés de 35 à 45 ans, les trois Tchèques se sont rendus en Zambie en touriste en marge d'un voyage d'affaires en Afrique du Sud. Jan Sofal, Irgit Setel et Michal Weber ont été arrêtés après avoir pris des photos, entre autres, d'entrées de casernes et de la base de l'armée de l'air zambienne. Les trois hommes étaient également en possession d'une carte téléchargée sur Google sur laquelle se trouvaient les casernes en question prises en photo. Selon le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, les services secrets zambiens les accusent d'être des espions précisément en raison de la possession de cette carte. Si l'affaire est rocambolesque, le motif n'en est pas moins suffisant pour emprisonner les trois hommes pendant une semaine, à l'issue de laquelle ils ont été libérés sous caution. Privés néanmoins de leur passeport et dans l'interdiction de quitter la capitale, Lusaka, ils sont tenus depuis de se présenter régulièrement à un poste de police locale dans l'attente de leur procès. Ce procès, c'est ce que la diplomatie tchèque souhaite éviter en priorité. Si une condamnation devait être prononcée par la justice zambienne, les chances de voir les trois hommes rapatriés à Prague s'amenuiseraient en effet considérablement. Pour l'heure cependant, malgré les demandes répétées, le ministre des Affaires étrangères n'a toujours pas réussi à entrer en contact avec son homologue zambien, celui-ci affirmant ne pas être disponible au moment proposé par Prague. Mais pour l'ambassadeur tchèque au Zimbabwe, voisin, Ludiek Zaraniček, il existerait une autre raison plus probable.
Après 19 ans pendant lesquels le gouvernement a été dirigé par un seul parti, le parti du président Rupiah Banda, il y a aujourd'hui quelqu'un d'autre à la tête du gouvernement et celui-ci remplace un grand nombre de hauts responsables. Je pense qu'une atmosphère relativement nerveuse règne actuellement dans ce pays où très rares sont ceux qui osent prendre des décisions.
Mercredi, le gouvernement zambien a néanmoins manifesté son irritation en qualifiant de malheureuse l'initiative entreprise par la diplomatie tchèque auprès de l'Union européenne afin que celle-ci intervienne. Le ministre des Affaires étrangères, Chichimba Kamvili, a indiqué que le gouvernement suivait le dossier mais qu'il n'intervenait pas dans les affaires de justice. L'ambassadeur Ludiek Zaraniček a toutefois démenti l'information selon laquelle la République tchèque voudrait faire appliquer des sanctions européennes à l'encontre du pays africain. Quoi qu'il en soit, malgré la tournure prise par les événements, Ludiek Zaraniček reste relativement optimiste.
L'avocat que nous avons mis à la disposition des trois hommes est convaincu qu'il n'existe aucune preuve d'espionnage, qu'il s'agit au maximum d'une infraction. Ils ont photographié des objectifs qu'il n'est certes pas permis de photographier, mais il faut préciser que ces objectifs se trouvent dans des lieux accessibles au public, même dans des rues très fréquentées.
Concrètement, les trois hommes auraient pris en photo notamment un ancien avion de fabrication tchécoslovaque exposé devant une base militaire située dans le centre-ville de Lusaka, la capitale de la Zambie, ou encore le palais présidentiel. Ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères a finalement envoyé un émissaire en Zambie, le vice-ministre Vladimir Galushka, et celui-ci espère revenir en pouvant confirmer l'information publiée il y a quelques jours dans le quotidien Lidové Noviny, selon laquelle la plainte pourrait finalement être retirée et les trois hommes retrouver leur pays d'origine et leur famille avant la fin de l'année. On passe au sport et au football. Première victoire pour le Victoria Plzeň en Ligue des Champions. Dans le brouillard biélorusse à Minsk, l'équipe tchèque s'est imposée 1-0 contre le Baté Borisov et prend ainsi la troisième place du groupe H. Cette troisième place, si elle est conservée dans deux semaines face au Milan AC à Prague, permettrait au Victoria Plzeň de poursuivre sa campagne européenne en Ligue Europa. Retour sur ce match avec Alexis Rosenzweig.
Il fallait avoir de bons yeux pour voir le ballon mercredi soir dans le stade de Minsk. Une vraie purée de pois, sauce biélorusse qui a réussi à donner du mal aux commentateurs parfois incapables de distinguer les joueurs. Mais sur le terrain, les Tchèques s'en sont plutôt bien sortis, réussissant à se procurer plusieurs nettes occasions grâce notamment à Milan Petagela. C'est lui qui, après un joli débordement et un centre en retrait, l'arme absolue, c'est bien connu. C'est lui qui permet à l'attaquant Marek Bakos d'inscrire le seul but du match. On écoute Marek Bakos.
Je n'ai pas encore pris conscience de l'importance de ce but pour moi parce que nous sommes encore dans l'euphorie de la victoire. On a réussi à gagner un match difficile. Certainement que plus tard, je me souviendrai avec fierté de ce but en Ligue des Champions. Le plus gros du travail a été fait par Milan Petagela. J'ai juste réussi à reprendre son centre et à mettre la balle au fond.
Nachádzať a mne sa podarilo nadviazať na tú jeho prihrávku a zasunúť to do brány.
Grâce à cette victoire, Plzeň est donc en très bonne position pour terminer à la troisième place de son groupe. Pour la perdre, cette troisième place, il faudrait que le Bate Borisov s'impose en Catalogne face au FC Barcelone. Autant dire que c'est dans la poche. Quoi qu'il advienne, le 6 décembre, ce sera le dernier match des Tchèques dans cette Ligue des Champions. À Prague, face au AC Milan, qui s'est incliné 3-2 mercredi sur son terrain face à ce terrible FC Barcelone. La Ligue Europa est quand même un très beau lot de consolation pour le Victoria. Elle rapporterait près d'1 million d'euros au club. Les 16e de finale se disputeront en février et les matchs à domicile devraient enfin se jouer à Plzeň si l'UEFA donne son accord. D'ici là, il y aura sûrement quelques transferts. Il est possible que le club de Bohème de l'Ouest reçoive des offres pour certains de ses joueurs, notamment pour les très remarqués nouveaux internationaux que sont Václav Pilař et Petr Jiráček. Mais l'entraîneur Pavel Vrba ne se fait pas trop de soucis, on l'écoute.
Pour le prestige du club, il est important que les joueurs fassent le choix de rester ou de partir avant la reprise de la compétition. Maintenant, on va jouer chez nous, dans notre stade rénové, et qui va être plein pour chaque match. On va leur en mettre plein la vue, mais c'est vrai que ça va être plus dur pour la direction du club maintenant que les supporters sont plus exigeants. Mais je pense qu'il n'y aura qu'un ou deux joueurs au maximum qui vont partir, pas plus.
Le Victoria Plzeň est pour l'instant troisième du championnat tchèque, la Gambrinus Liga, à 9 points du Sparta Prague, le leader, et à 3 points du Slovan Liberec.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée comme tous les 15 jours au Tchèque célèbre et moins célèbre. Et cette fois, le Tchèque célèbre en question est le scénographe magicien Josef Svoboda, dont le portrait est présenté par la non moins célèbre et la non moins magique Magdalena Rozinková. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 20 janvier dernier.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
A teď a ta overtura končí a ta opona na zemi, ta se trhne, roztrhne se, tak se roztrhne a rozjíždí se do stran.
On dit de lui qu'il a su transformer la technique en poésie. Auteur de plus de 700 scénographies, Josef Svoboda a travaillé pour le Théâtre National de Prague, ainsi que pour les scènes mondiales les plus prestigieuses, dont le Metropolitan Opera de New York, l'Opéra de Paris, le Grand Théâtre de Genève ou le Deutsche Oper de Berlin. Il est décédé en avril 2002 à l'âge de 81 ans, après avoir révolutionné la scénographie du XXe siècle en faisant de la lumière l'élément majeur de l'espace scénique. Pour parler de la vie et de l'œuvre du scénographe, nous avons invité son petit-fils, Jakub Heina, 35 ans. Jakub est monteur de films. Il vient de réaliser un remarquable documentaire de 100 minutes sur Josef Svoboda. Une manière pour lui d'approcher un grand-père qu'il a finalement peu connu de son vivant.
Nous avions une relation assez distante du fait que mon grand-père était presque toujours absent. Il travaillait à l'étranger, revenait à Prague pour 2 ou 3 jours, puis repartait. Dans notre maison familiale et dans son atelier qui s'y trouvait, il y avait beaucoup de choses qui m'attiraient quand j'étais gamin. Les maquettes des décors qu'il fabriquait lui-même, les projecteurs, même les petits bonhommes qui représentaient les comédiens. Quand il était absent, j'adorais jouer avec tous ces objets. Lorsqu'il revenait, voulait continuer son travail là où il l'avait interrompu et s'apercevait que les choses n'étaient pas à leur place, il était furieux. Ensuite, quand j'ai été plus grand, nous avons discuté de temps en temps, mais pas beaucoup. Il était tellement pris par son travail qu'il n'était pas possible de le retenir plus d'une demi-heure. Et puis j'avais beaucoup de respect pour mon grand-père, j'avais même un peu peur de lui. Plutôt que de lui poser des questions, je l'écoutais, et quand je voulais en savoir plus sur ce qu'il me disait, je préférais aller le chercher dans des livres sur lui.
« Josef Svoboda est né en 1920 à Čáslav, une petite ville de Bohême centrale. Jeune, il rêve de devenir peintre, mais il finit par apprendre le métier de son père, la menuiserie, un apprentissage dont il profitera pendant toute sa future carrière de scénographe. Il se forme ensuite dans une école d'architecture intérieure et étudie enfin la scénographie à l'école supérieure des arts décoratifs à Prague. Svoboda est alors engagé au théâtre du 5 mai, une des principales scènes de l'après-guerre, l'actuel opéra d'État de Prague. Nommé chef des décors, Josef Svoboda collabore avec les grands noms de la mise en scène comme Alfred Radok et Václav Kašlík. Il se passionne pour l'opéra. La scénographie pour un opéra doit être acoustique, dira-t-il plus tard à ses élèves, en expliquant que les décors doivent réagir à la musique, suivre son rythme, être en mouvement. En 1992, Svoboda crée la scénographie pour la Traviata, montée au Sferisterio di Macerata en Italie par Henning Brockhaus. Dans une interview qui apparaît dans le documentaire de son petit-fils, il se souvient de ce travail.
Imaginez que j'ai fait un miroir transparent de 30 mètres de long et de 15 mètres de haut. Il est posé par terre, sur scène. Au début, la scène est vide. C'est un choc pour le spectateur. Le chef d'orchestre arrive, l'orchestre commence à jouer, le miroir se lève jusqu'à un angle de 45 degrés. Par terre, il y a une peinture qui représente le rideau, un magnifique rideau de théâtre ancien, baroque. Et ce rideau, le public le voit dans le miroir. C'est parfait.
Ensuite, le rideau ne se lève pas, mais se déchire. Le spectacle commence. La lumière est l'outil privilégié de Josef Svoboda, et c'est elle qui le rendra mondialement connu. En 1958, scénographe depuis quelques années déjà au Théâtre National de Prague, il crée sa première scénographie à l'étranger pour l'opéra Rusalka Londine d'Antonin Dvořák, monté au Théâtre La Fenice de Venise. Cette même année, 1958, et nous en arrivons au rôle crucial de la lumière dans son œuvre, Josef Svoboda et le metteur en scène Alfred Radok remportent un vif succès à l'Expo de Bruxelles avec une création intitulée Laterna Magica, la lanterne magique. C'est un spectacle sans parole qui mêle la danse, la musique, la pantomime avec des effets de lumière et des projections simultanées sur plusieurs écrans. Ce spectacle donne ensuite lieu à la fondation à Prague d'un théâtre éponyme, la Lanterne Magique, aujourd'hui rattaché au Théâtre National. Comment est née chez Svoboda cette fascination pour la lumière sous toutes ses formes, Jakub Hejna?
Jeune, mon grand-père peignait beaucoup. Il admirait les impressionnistes. Il se souvenait d'un livre sur les peintres impressionnistes que son père lui avait offert quand il était malade. Il aimait les paysages tchèques, les reflets de la lumière sur les étangs, la lumière dans la forêt. Il a voulu rendre les mêmes effets au théâtre. C'est son fameux mur de lumière, fait à l'aide d'un projecteur qu'il a inventé, qui porte son nom et que l'on trouve aujourd'hui dans chaque théâtre. Ces murs de lumière sont apparus pour la première fois sur scène dans la mouette de Tchekhov qu'il a créée au Théâtre National avec le metteur en scène Otomar Krejča. Son idée était de dématérialiser, d'alléger la scène. Je crois que son mérite, c'est d'avoir supprimé des décors lourds. Il a même supprimé le rideau, le procédé classique, c'est-à-dire que le rideau descend, on change les décors, le rideau remonte et le spectacle continue. Tout cela, il détestait. Il voulait que la scène change sous les yeux du spectateur, qu'elle soit cinétique ou qu'on la modifie simplement par l'intensité de l'éclairage. Il travaillait aussi beaucoup avec les miroirs semi-transparents par exemple. Lorsqu'on éclaire la scène derrière les miroirs, on voit cette partie de la scène-là et on ne perçoit plus la réflexion dans le miroir. Techniquement, bien sûr, ce qui nous paraît facile à réaliser aujourd'hui ne l'était pas dans la Tchécoslovaquie des années 1950, par exemple.
Josef Svoboda modernise les ateliers de fabrication des décors du Théâtre National de Prague, mais la majorité des inventions techniques qu'il imagine pour la scène, il les réalise à l'étranger. Un exemple pour tous, l'utilisation du laser au théâtre qu'il met au point avec le groupe Siemens. Paris, Milan, Londres, Hambourg, Berlin, Brême, Munich, Genève, Stuttgart. Depuis la fin des années 50, le collaborateur de Leonard Bernstein, de Roland Petit, de Laurence Olivier ou de Peter Brook parcourt l'Europe et l'Amérique. Dans son film, Jakub Hejna suit les traces de son grand-père, rencontre ses collaborateurs tchèques et étrangers, ses anciens élèves à l'école supérieure des arts décoratifs. Il rencontre aussi une dame avec qui Josef Svoboda a entretenu une relation extra-conjugale pendant de longues années. On peut même dire que le scénographe a assisté au tournage, puisque Jakub Heina a emprunté au Théâtre National le buste de son grand-père pour faire de celui-ci son compagnon de route, pour ainsi dire, lorsqu'il s'est rendu chez ses interlocuteurs. Parmi eux, il y a eu également les historiens de l'Institut d'études des régimes totalitaires de Prague, Jakub Heina.
Le destin de mon grand-père reflète l'époque où il a vécu. Évidemment, on se pose des questions. Comment est-il possible qu'il ait pu voyager aussi librement à l'Occident? Que représentait-il pour le régime communiste? Et inversement, comment a-t-il perçu cette époque-là? En 1968, il était déjà renommé dans son pays et à l'étranger, et il devait se décider, soit s'opposer au régime, ce qui aurait mis fin à sa carrière, soit continuer et faire intérieurement des concessions. Il faisait partie des gens talentueux qui représentaient une sorte de vitrine du régime communiste. Celui-ci avait besoin de ces gens-là, une chose est certaine, comme il voyageait beaucoup, la police secrète, la STB, s'intéressait à lui. Il n'était pas question qu'il rassemble systématiquement des informations, mais il est vrai qu'il existe dans les archives de la STB un dossier qui lui est consacré. Ce qui est primordial pour moi, c'est que je n'ai rien trouvé dans ces rapports qui puisse le compromettre à mes yeux. Rien de fatal qui aurait fait et qui puisse nuire à quelqu'un, le mettre en danger. Évidemment, si cela avait été le cas, ce serait tout autre chose.
Artiste reconnu et récompensé par les autorités communistes, Josef Svoboda n'a finalement jamais mis son talent au service de leur propagande. On le voit dans le film, cet homme à la silhouette athlétique, toujours bien habillé, charmant, distrait dans la vie quotidienne, mais absolument concentré sur son travail, qui était le sens de sa vie, son plus grand défi, sa plus grande joie. Il n'a jamais voulu émigrer, bien qu'on le lui propose maintes fois, en affirmant qu'il voulait faire České divadlo, du théâtre tchèque. Pour Jakub Heina, le tournage de ce documentaire, intitulé Divadlo Svoboda, Théâtre Svoboda, a été un moment fort dans sa vie.
Je crois que je me suis rapproché au maximum de mon grand-père, dans le sens où je connais en détail toute son œuvre. Et puis je l'ai compris, même si être confronté à des questions d'ordre moral n'a pas toujours été agréable, je crois que les choix qu'il a faits étaient pour lui les plus naturels. Il disait qu'en étudiant l'architecture, il a compris que la vie avait elle aussi un plan, comme un bâtiment. J'ai conçu ce film aussi comme un plan, le plan d'une vie d'artiste. Nous sommes tous dans la même situation, nous sommes nés à une époque précise et nous devons nous débrouiller.
Vous avez écouté en rediffusion le portrait du scénographe Josef Svoboda. Le documentaire Divadlo Svoboda, réalisé par Jakub Heina, est sorti en salle en République tchèque au printemps 2011. Des créations de Josef Svoboda figurent toujours par ailleurs au répertoire du théâtre Laterna Magica à Prague. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague en français. Au revoir.